Je vous propose de lire dans le livre de Josué au chapitre 1er un texte qui a été donné à Josué, les encouragements qu'il a reçus alors qu'il s'apprête à avoir une tâche à ses yeux colossale. Josué chapitre 1er verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Amen. Je crois que perdre courage, ça arrive à tout le monde. Et en ce qui concerne Josué, il a une tâche de plus haute importance à réaliser. Et il sait qui l'a précédé. Et on sait tous, on imagine tous, que prendre la suite d'un illustre comme Moïse, ça ne devait pas être simple. Aussi, Josué, dans son cœur, mais il y a de la crainte, tout simplement. Et Dieu va lui laisser cet encouragement pour qu'il puisse aller de l'avant, qu'il puisse continuer et bien commencer, bien terminer avec le Seigneur. Dans cet encouragement, eh bien, la première fois que je lisais ces paroles, je me rappelle quand je lisais cette parole, « Fortifie-toi, prends courage », je me disais, ouais, c'est facile à dire. Quand je n'ai pas de courage, comment je vais en prendre ? Et c'est vrai qu'en lisant rapidement, c'est un peu une réflexion qu'on peut se faire, de se dire, mais moi je veux bien prendre courage, mais où est-ce que je vais le trouver ? Comment je vais pouvoir prendre courage ? Et au départ, je ne comprenais pas bien ces paroles. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que, on va le voir, il y a un développement dans tout ce que nous avons lu. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ça commence par « fortifie-toi, prends courage ». Entre les deux, il y a des choses qui sont dites. Et après, ça finit par « fortifie-toi et prends courage ». Autrement dit, ce qu'il y a au milieu, c'est très important pour prendre courage, pour se fortifier, justement. On va le voir. Qu'est-ce que le courage ? C'est peut-être bien de commencer par cela. Je suis allé voir dans le dictionnaire et j'ai trouvé une définition qui nous dit ceci, le courage, dérivé du mot cœur, ça vient du mot cœur, est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance, la fatigue. Son contraire est la lâcheté. Donc quelque part, dans le courage, il y a une notion de crainte qui est là, une notion de peur, parce qu'il y a quelque chose qui est devant nos yeux, difficile à surmonter. Et celui qui est courageux, c'est celui qui va pouvoir le surmonter. Est-ce que dans la parole, on voit des personnes découragées ? Je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher beaucoup pour en trouver. J'ai noté l'exemple de Anne. La maman de Samuel, est-ce qu'elle n'était pas découragée ? Anne était complètement découragée. Mais elle a repris courage. Elle a repris courage. Elle a pu reprendre courage parce qu'elle s'est présentée devant Dieu. Anne a déployé, déversé son cœur devant Dieu. Elle a déversé toute sa peine et tout ce qui était là sur son cœur, qui était lourd, sa fatigue, son épuisement, même morale, spirituelle, devant la situation qu'elle ne pouvait plus supporter, eh bien malgré tout, elle a pu reprendre courage. On voit aussi Ellie, qui est menacée de mort, à l'image peut-être des affiches dans le Far West, « Wanted ». Pendant un temps, il y avait la tête d'Ellie qui était mise à prix. Jézabel voulait sa peau et d'apprendre juste la nouvelle. Alors que juste avant, il venait d'accomplir quelque chose de glorieux, il a perdu courage. Il a perdu courage et il est allé jusque dans la caverne de Dieu et Dieu l'a fortifié. On a l'exemple de David. À un moment donné, c'était la même situation. David lui-même s'exprime, psaume 40, verset 13. « Veuille me délivrer, ô Éternel, Éternel, viens hâte à mon secours, que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. » On voit ici, dans ces paroles, une tristesse profonde et un désespoir quelque part pour en venir à voir Dieu et dire « Seigneur, ils m'en veulent tous, je suis seul contre tous. » C'est aussi ce que disait Élie. Et Élie, ce qu'il ne comprenait pas bien, c'est qu'il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul. Et David, il dit ces mêmes paroles. « Ils m'en veulent tous. Ils désirent ma perte. » Et c'était vrai. C'était vrai. David, ce qu'il vivait, il fallait le vivre aussi. Il était poursuivi par son propre fils. C'était pas évident. Les Éphésiens, à l'égard de Paul aussi, pour que Paul puisse laisser cet encouragement, Éphésiens 3, 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Elles, pour vous, elles sont votre gloire. Les Éphésiens, de la même manière, perdaient courage. Et ils voyaient, c'était même pas par rapport à eux-mêmes, c'était par rapport à la situation de Paul. Et Paul, l'ayant appris, les encourage. Il les encourage en leur disant « Non, ne vous inquiétez pas pour moi, ce qui m'arrive, Dieu le gère. Et ce que je vis contribue à l'avancement du royaume de Dieu. » Donc c'est ainsi qu'il a pu donner des encouragements. On peut être découragé parce que nous sommes de chair et de sang et ce sont des choses qui peuvent arriver. Attention quand même, être découragé, ce n'est pas un péché. Mais être découragé, il faut faire très attention parce qu'en général, celui qui est découragé est aussi décourageant. Et là, il faut faire très attention. On a l'exemple des 10 espions qui étaient découragés. Quand ils ont visité le territoire de Canaan, ils n'ont vu qu'une chose, les géants. Ils n'ont pas vu le lait, ils n'ont pas vu le miel, ils n'ont pas vu la beauté du pays, ils n'ont pas vu que Dieu était avec eux, que c'était quand même le Dieu qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, qui avait fendu la mer en deux. C'est pas rien quand même. Et pourtant, en traversant Canaan, ils voyaient les géants. Et ils se sont trouvés tout découragés. Et malheureusement, ils ont entraîné le peuple dans leur découragement. Ils n'étaient que 10 à être découragés. Et malgré les deux autres qui essayaient par-dessus d'encourager le peuple, ils ont eu raison de tout le peuple, à dix, ils ont découragé tout un peuple. Aussi, quand on est découragé, il nous faut faire très attention. On peut traverser des moments de découragement, mais il ne faut pas y rester. Il ne faut pas y rester parce que c'est dangereux pour nous et c'est dangereux pour notre entourage. On a aussi cet encouragement de Paul qui nous dit, ce commandement, ce conseil, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Là, j'ouvre une petite parenthèse. Vous savez, le conseil est tout autant valable quand nous sommes vieux. Et même si nos enfants, ils ont 50 ans ou 60 ans, ça reste nos enfants, et il nous faut faire attention à ne pas les irriter. De la même manière, parce que ce ne serait pas équilibré, les enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire à l'égard de leurs parents ? Les honorer. Et il y a un piège dans lequel le diable veut nous faire tomber, c'est quand les parents irritent leurs enfants et quand les enfants n'honorent pas leurs parents. Il ne faut pas que cela arrive. Il faut veiller particulièrement à cela pour qu'il reste, il demeure même cette unité dans la famille entre les parents, les enfants, de manière qu'ainsi à ce que chacun puisse marcher dans le même sens. Il nous faut honorer nos parents dans leur âge avancé, c'est peut-être le meilleur moment, je dirais. Et nous, parents, nous avons une responsabilité en vis-à-vis de nos enfants, quand bien même ils sont adultes. N'irritez pas vos enfants. Comment prendre courage ? On en arrive au cœur de la question. Quand on relit cette parole de Josué, « Fortifie-toi et prends courage », il n'est pas facile, en prenant juste cette parole, de se dire « Comment ça peut se faire ?» Il suffit de lire ce qui suit. Parce que ce qui est important, ce qui nous permettra de garder courage, se situe juste après. L'étude de la parole de Dieu. Si on relit ce verset 7, le verset 7, on voit le lien qui se fait. Seulement fortifie-toi et bon courage, comment ? En observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Et le verset 7 et le verset 8 sont des versets très importants. Des fois, on les tire même de ce contexte pour évoquer le fait de réussir dans ces entreprises. Et c'est juste. Mais on a tendance à oublier que ces deux versets, ils sont imbriqués dans quelque chose d'un peu plus grand, qui sont le fait de se fortifier et de prendre courage. On voit ici que ce moyen-là que Dieu nous donne, eh bien, c'est le moyen par lequel je vais pouvoir garder courage. L'étude de la parole de Dieu. Est-ce que, en étudiant la parole de Dieu, des liens ne vont-ils pas se tisser entre moi et Dieu ? Ce que Dieu cherche avec ses enfants, c'est cette relation de père à enfant. Et quand on découvre ce que Dieu dit dans sa parole, on découvre aussi ce qu'il est, parce que ce qu'il dit reflète ce qu'il est. Et ce qu'il nous dit doit nous aider dans notre vie de tous les jours. Dieu peut nous donner des paroles. Et on le sait tous, on a tous une plus grande facilité à écouter des paroles de personnes qui sont dans notre cercle intime. C'est vrai. Je pense que quand on a des amis proches, on écoutera peut-être davantage les conseils de ces personnes plutôt que l'inconnu qu'on va croiser dans la rue qui va nous donner un conseil. C'est tout à fait logique. Est-ce qu'on considère l'importance du fait que Dieu doit faire partie de notre cercle intime ? C'est à ce moment-là seulement qu'on pourra vraiment considérer ses paroles, qu'on pourra vraiment recevoir ses conseils. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra, en prenant au sérieux ce qu'il nous dit, rester dans une attitude où on pourra garder courage, où on évitera de perdre le courage. Le découragement, quand j'ai cherché dans le dictionnaire, c'est ce que j'ai trouvé. C'est celui qui a perdu courage. Ça ne m'a pas beaucoup avancé, mais c'est ça. C'est qu'on le perd. Le découragement, c'est qu'on l'a perdu. Or, dans la parole de Dieu, on voit qu'il est possible de garder courage. On pourrait se poser la question, est-ce que Jésus a été découragé ? Est-ce que Jésus a été découragé ? Moi, je ne pense pas. Il a peut-être été angoissé, parce que c'est écrit, mais Jésus n'a jamais été découragé. Jamais. Ce n'est pas possible. Parce qu'il avait une telle relation avec le Père. Il avait une telle attention sur les promesses de Dieu. Il savait tellement les choses qu'il ne pouvait pas, ça ne pouvait pas être autrement. Et on va le voir. Jésus ne pouvait pas être découragé. Et heureusement, parce qu'au moins, on sait que quand on se tourne vers lui, il va pouvoir nous encourager. Il n'y a rien de pire que quelqu'un de découragé pour essayer d'encourager quelqu'un qui est découragé. Ah, tu sais, ce qui t'arrive, moi je suis passé par là, c'est pénible. Hein. Ah, ça aide beaucoup ce genre de réflexion. Ça aide beaucoup. On voit que quand Jésus encourage, c'est pas comme ça qu'il s'y prend. C'est pas du tout comme ça qu'il s'y prend. On peut regarder des exemples. Il y a une première partie pour prendre courage, ce qu'il faut considérer. J'ai évoqué le fait, l'importance de connaître Dieu, de connaître ce qu'il nous dit, parce qu'en découvrant, en s'attardant sur sa parole, on va pouvoir découvrir qui il est, ce qu'il nous dit, quels sont ses conseils. On va faire un peu plus connaissance avec Dieu, il va y avoir cette relation qui va s'instaurer entre nous, il va faire partie de nos intimes. Et je nous encourage tous à ce que Dieu lui-même fasse partie de nos intimes. C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il fait partie de ton cercle intime? Est-ce qu'un conseil de Dieu, tu y donnes de l'importance? Ou alors tu préfères avoir un conseil de quelqu'un d'autre? Les conseils humains ne sont pas forcément mauvais. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais quand on sait que Dieu nous parle, c'est quand même bien aussi. Et quand Dieu nous parle, la première chose, c'est peut-être d'écouter ce qu'il nous dit. Chapitre 7, verset 27 du deuxième livre de Samuel, David écrit « Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant « Je te fonderai une maison, c'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. » On voit quoi ici ? Dans ce que David dit tout simplement, il a reçu une parole de Dieu. Et il n'a pas fait que l'entendre. Il a reçu au plus profond de son cœur. Et il s'est appuyé dessus. Et en s'appuyant sur la parole que Dieu lui avait donnée, il a pu prendre courage. On voit que l'important, finalement, dans cet ordre que Dieu donne à Josué, « Fortifie-toi seulement et prends courage », on voit que la prise de courage sera automatique si je me suis fortifié. Et tout l'important n'est pas dans le fait de prendre courage. L'important, c'est dans le fait de se fortifier. À partir du moment où je me fortifie, forcément, je vais prendre courage. C'est une conséquence complètement logique. C'est la suite logique du fait que je vais me fortifier. Et dans la parole, quand il s'agit de se fortifier, quand on lit ces textes, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ce sont des paroles qui ne parlent pas à notre corps physique, même quand on lit Jésus se fortifier. Et il ne s'agissait pas de son corps physique qui se développait, il s'agissait de son être intérieur qui se fortifiait en Dieu. Il s'agissait de cette relation avec Dieu qui s'approfondissait. Il nous faut nous fortifier dans cette connaissance de Dieu. Et celui qui se fortifie dans sa connaissance de Dieu, il ne perdra pas courage. Il gardera courage. Ici, David se base sur la parole de Dieu, il s'appuie sur ce qu'il a entendu et il prend courage. Mais le fait qu'il a pris courage, ce n'est pas qu'il s'est dit « Tiens, il y a du courage, là, je vais en prendre. » Il a accepté cette parole de Dieu pour lui. Et le fait de recevoir, de s'appuyer dessus, il y a le repos de la foi. Il y a la paix de Dieu. Et forcément, quand on est dans la paix de Dieu, dans le repos, parce qu'on s'appuie sur sa parole, sur une parole qu'il va nous dire, la prise de courage, elle est faite. Et c'est là qu'est la clé du fait de prendre courage. Un autre exemple, Ézéchias, 2 Chroniques, chapitre 32, versets 7 et 8. C'est Ézéchias qui dit ces paroles. Fortifiez-vous et ayez du courage. Il parle à son peuple qui a été découragé par l'envahisseur assyrien et il fait peur au peuple. Et Ézéchias, lui, avait reçu une parole. Et il va, lui aussi, il a été encouragé, il va encourager les autres. De la même manière que je disais tout à l'heure, que celui qui est découragé est décourageant, mais celui qui est encouragé, il est aussi encourageant. Il a envie d'encourager. Et ici, on a Ézéchias qui a été encouragé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut encourager son peuple. Et il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Voilà ce qu'il avait compris. Voilà la parole qu'il avait reçue. Avec nous, il y a plus qu'avec lui. Donc quelque part, une fois de plus, on voit quelque chose de très important, c'est que ce qui est en lien avec sa prise de courage, c'est qu'il a considéré Dieu. Il a considéré Dieu. Il a vu que Dieu était là. Il a vu que dans sa vie, dans ce qu'il faisait, Dieu était là. Il savait que Dieu était là. Et c'est en s'appuyant sur lui qu'il a pris courage. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias. On voit que ici, Ézéchias s'était vraiment appuyé sur une parole. Il ne s'était rien passé. On peut lire, je ne l'ai pas marqué dans ma Bible, mais le verset 5, c'est le moment où justement Dieu lui donne cette parole. 2 Chroniques 32, pour ceux qui n'y sont pas. Et le verset 5, je l'ai plus. Bon, je l'avais lu ailleurs, mais c'est pas grave. Dans le 7 et 8, c'est quand qu'il encourage, mais le moment où il reçoit la parole de Dieu, on voit juste qu'en fait, il affermit son pouvoir. Et quand c'est écrit ainsi, on voit que quelque part, Dieu est là, et au verset 5, il reconstruisit la muraille qui avait des brèches et l'éleva jusqu'au tour. Il bâtit une autre muraille en dehors. Bref, quand il fait cela, c'est parce qu'il a pris confiance dans la parole qu'il avait reçue de Dieu. On va continuer. Il y a un autre exemple. L'exemple de Daniel. Au chapitre 10 et au verset 19, Daniel lui-même va être encouragé par Dieu. Daniel, chapitre 10 et au verset 19, il est devant quelque chose qui l'impressionne forcément parce qu'il a affaire à une vision céleste. Et j'avais déjà prêché là-dessus. C'est difficile de supporter ce genre de choses. On le voit dans le livre de Daniel, c'est flagrant, c'est insupportable pour lui. Et devant l'immensité, de la grandeur de ce monde céleste, de cette vision auquel il a affaire, ici on voit que Daniel est encouragé. L'ange dit « Sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi. » Et comme il me parlait, je repris des forces et dis « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » C'est intéressant de voir ici que ce qui fortifie, ce n'est pas Daniel qui se fortifie. Pourtant, l'ange a dit, fortifie-toi. Mais comment ? En écoutant. C'est écrit, on vient de le lire. Et comme il me parlait, je repris des forces. L'importance de se fortifier, de considérer la parole de Dieu. Si je considère la parole de Dieu, je vais me fortifier. C'est obligé. C'est comme celui qui mange, il sera nourri. C'est la même chose. C'est exactement pareil. On voit que dans cette affaire-là, le fait de recevoir une parole de Dieu est importante. Jésus, comment il fait pour encourager ? Parce qu'on a vu ici d'autres des manières dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit comment Jésus, lui, il s'y prend. Je ne sais pas si on réalise à quel point un encouragement a un fondement, doit avoir un fondement biblique, un vrai encouragement a un fondement biblique. Ici, dans Matthieu au chapitre 9 et au verset 2, Jésus va parler aux paralytiques. Et quand Jésus dit de prendre courage, il ne fait pas que dire « prends courage ». Il ajoute toujours quelque chose. Parce que ce serait trop facile de dire « prends courage ». C'est pas un encouragement, ça. C'est pas du tout un encouragement. Si je donne pas une piste, ça sert à rien. Qu'est-ce que Jésus dit ? On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, et je ne serais pas surpris que le problème de ce paralytique, ce n'est pas sa santé, parce qu'un paralytique qui vient à Jésus, c'est quand même assez étonnant. On a peut-être plutôt tendance à voir Jésus qui va vers le paralytique, mais le paralytique qui va vers Jésus, ça pose question quand même. Et cet homme-là, il avait certainement un autre problème. Et Jésus va adresser le problème de cet homme. Et il va lui dire, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus l'appelle mon enfant. Jésus l'appelle mon enfant. Ça veut dire que cet homme-là, il avait déjà la foi en lui. Il avait déjà eu quelque chose, une relation avec Dieu. Et il était dans une prière intérieure qui faisait que Jésus lui a donné la réponse qu'il attendait. C'était celle-là qu'il attendait. Et Jésus la lui a donnée. Tes péchés te sont pardonnés. Je prends courage en m'aidant de quelque chose. Ici, Jésus va lui donner une parole sur laquelle il va pouvoir s'appuyer. Et en écoutant cette parole, en recevant cette parole, en mangeant cette parole, elle va prendre vie dans la personne qui va prendre courage, qui va reprendre des forces. Un peu plus loin, au verset 22 de ce même chapitre, Jésus est dans une autre situation. Et dans cette situation, qu'est-ce que dit Jésus, cette femme qui était à la perte de sang depuis 12 ans? Qu'est-ce que dit Jésus? Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Cette femme, elle fut guérie à l'heure même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle a accepté la parole de Jésus. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus lui a dit qu'elle était guérie, elle s'est considérée comme une personne bien portante. Jésus lui avait dit qu'elle était guérie, donc c'en était terminé pour elle. La maladie, c'était terminé. Et elle avait accepté cette parole. Et elle s'est mise à vivre comme si elle n'était plus malade. Elle a accepté, elle a reçu cette parole de Dieu et elle a été fortifiée. Jésus dit un peu plus loin dans l'évangile de Jean, chapitre 16, au verset 33, cette autre parole qu'on connaît tous parce qu'on la cite régulièrement. Quand Jésus encourage justement ses disciples à garder la paix, il encourage ses disciples à garder la paix. Et voici ce qu'il leur dit, Jean 16, 33, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc quand Jésus encourage, il ne fait pas que dire « prends courage ». Il nous dit comment garder la paix. Oui, peut-être que je serai dans des tribulations, peut-être que je vais avoir des soucis, mais Jésus a vaincu ces choses. Jésus a vaincu le monde. Si je reçois au plus profond de mon cœur cette parole que Jésus a vaincu le monde, combien même je suis sous la tribulation, combien même je suis dans ma vie de tous les jours emprunt à des mauvaises attitudes de mes collègues de travail, des personnes même de ma famille, etc., je sais que lui, il est au-dessus. Et s'il permet que ça arrive, c'est pour mon bien. S'il permet que ça arrive, c'est pour qu'à travers ma bonne réaction, devant ces moments-là, devant ces inquiétudes, et je vais me confier en Dieu, en m'appliquant à m'appuyer sur la parole qui me dit « ne vous inquiétez pas », par exemple. Eh bien, il va y avoir quelque chose qui va se dégager de moi-même. Parce que finalement, je ne suis pas un chrétien découragé. En m'appuyant sur la parole que Dieu me donne, je garde courage et je vais pouvoir continuer ma marche parce que j'ai fait confiance à la parole que Dieu m'a donnée. Et il y a autre chose que nous pouvons faire aussi pour garder courage. On le voit souvent dans les psaumes et Jean-Saint tout à l'heure l'a dit. Il nous faut regarder à Dieu. Regarder à Dieu. On sait très bien que quand on est découragé, quand on est dans la défaite, on va faire qu'une seule chose, c'est voir les géants qui sont devant nous. On va fermer nos yeux. Et regardons ensemble ce que David écrit dans le psaume 71, au verset 16. Psaume 71, verset 16. David est découragé. Et voilà quel réflexe il va avoir dans ce moment de découragement, dans un moment où il doute de, peut-être de beaucoup de choses. Voilà ce que David va dire. Psaume 71, verset 16. Je dirai tes œuvres puissantes, éternelles. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Au psaume 77, verset 12, on trouve quelque chose qui ressemble. Psaume 77, verset 12. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Que fait David quand il est découragé ? Il regarde à Dieu. J'ai trouvé une phrase quand je réfléchissais sur ce sujet. Et j'ai découvert cette expression, le découragement, c'est la maladie d'Alzheimer spirituel. Le découragement, c'est la maladie d'Alzheimer spirituel. Pourquoi ? Parce que quand on est découragé, on oublie tout. On oublie tout. On a oublié que Dieu est intervenu à tel moment de notre vie. On a oublié que Dieu a pris soin de nous dans telle situation. On a oublié que tel jour, on avait besoin d'argent et Dieu a pourvu. On a oublié que Dieu a gardé nos enfants. On a oublié le jour où, alors que nous étions même dans le péché, nous étions dans le malheur, on a oublié cette situation-là. Et on a oublié du fait que Dieu nous a sortis de cette situation. On a oublié ce que nous avons vécu au premier jour quand nous avons rencontré le Seigneur. On oublie tout ce qu'on a vécu de spirituel avec Dieu. Et en ayant oublié nos expériences, c'est aussi Dieu que nous oublions. Et quand on oublie Dieu, on va se décourager. C'est obligé. Est-ce que ce matin, je fais partie de ceux qui oublient ce que Dieu a fait ? David, lui, c'est ça son antidote. Je rappellerai toutes tes œuvres. Je me rappellerai, Seigneur, tu es bon, tu es celui qui a tant fait pour moi. Oui, Seigneur, en ce moment, c'est dur. En ce moment, c'est difficile. Mais je sais que par le passé, jusqu'à présent, tu as toujours pourvu. Tu as toujours pris soin de moi. Tu m'as toujours entouré de tes bras d'amour. Oui, Seigneur, tu l'as fait. Et tu n'as pas changé. Et voilà qui redonne du courage. Parce qu'on se recentre sur l'essentiel, pas sur nos problèmes, pas sur nos géants, pas sur nos inquiétudes, pas sur toutes ces choses qui font qu'on ne sait plus où regarder. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Et si tu regardes à Dieu, tu garderas courage. Il va revenir, c'est obligé. David a écrit aussi, « Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. » Comme le disait notre frère tout à l'heure, c'est pas toujours facile de célébrer la bonté de Dieu quand on traverse une passe difficile. Mais c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Et c'est quelque chose qui nous bénit parce que derrière, ça nous aide à nous rappeler qui est Dieu. Plutôt que de rester le nez, nos yeux avec des œillères sur nos problèmes, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder à celui qui est bien au-dessus de nos problèmes ? Qu'est-ce qu'une montagne ? Devant le Créateur du ciel et de la terre. Lui qui est déjà tellement plus grand que la planète, que l'univers même. Qu'est-ce qu'une montagne à ses yeux ? C'est du plat. Pour nous, c'est une montagne. Mais pour lui, c'est du plat. C'est pas plus dur qu'ailleurs. Et il nous faut peut-être réfléchir à notre comportement vis-à-vis de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, ils lisent ces choses dans la parole de Dieu. Ils l'entendent, mais ils ne le reçoivent pas dans le cœur. Ils ne reçoivent pas ces paroles. Aussi, ce sont des personnes qui marchent et qui continuent de marcher dans un découragement parce qu'elles ne prennent pas au sérieux ces paroles qui sont pour elles. Et Dieu, il en est le premier peiné. Il en est le premier peiné de voir que quand il nous dit quelque chose, on n'écoute pas. Quand il essaye de nous encourager, on n'écoute pas. On ne prend pas au sérieux la parole qu'il va nous dire. On n'arrive pas à accepter l'idée que Dieu puisse pourvoir à nos besoins. Il nous faut chercher par nous-mêmes quelque chose et on n'arrive plus à se reposer en Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, quand on a des besoins, s'en inquiéter et essayer de regarder ce qu'on peut faire. Mais le problème, c'est quand dans mes yeux, je ne suis que les yeux tournés sur ce problème et je ne mesure jamais le fait que Dieu puisse répondre d'une manière à laquelle je ne m'y attends pas. Dieu peut pourvoir à une manière, avec une manière à laquelle je n'ai pas pensé. Ça peut très bien arriver. Je pense que parmi nous, ce matin, on pourrait être nombreux à dire, voilà, j'étais dans telle situation, je ne voyais pas comment m'en sortir, et le Seigneur a pourvu de telle manière. Mais jamais je me serais imaginé qu'il aurait pourvu comme ça. Et pourtant, c'est là que Dieu nous dépasse. Et c'est là qu'il nous faut penser que nous, on ne pense pas à tout. Et il faut l'avoir à l'esprit. Et quand on reçoit ces choses, quand on reçoit ces vérités, quand on accepte le fait que Dieu est Dieu, il est notre Père, quand nous sommes réconciliés avec lui, on a un Père céleste. Je dis ça pour les chrétiens, bien sûr, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui se sont repentis de leurs péchés, ceux qui ont compris que Dieu les aimait et que Jésus-Christ était mort pour eux sur la croix du calvaire, ceux qui se sont approchés de lui, ceux qui ont voulu faire de Dieu leur Père, ceux-là, ils peuvent dire que Dieu pourvoit aux besoins, que Dieu leur dit de ne pas s'inquiéter, que Dieu leur dit qu'il les accompagnera tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus ne l'a-t-il pas dit ? Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus qui l'a dit. Est-ce que Dieu peut se renier lui-même ? Il ne peut pas se renier lui-même. Quand il prononce une parole, et là, on en a quelques-unes qui sont consignées dans cette parole. Quand on a des vérités qui sont là, écrites, comment douter du fait que Dieu pourrait faire l'inverse de ce qui est écrit ? Ce n'est pas possible. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, quand nous sommes rachetés, c'est un Père céleste. Et comme un Père, il veille avec un soin tout particulier sur ses enfants. C'est Jésus qui dit que, alors que nous sommes capables de donner de bonnes choses à nos enfants, comment le Père ne nous donnera-t-il pas tout ce dont nous avons besoin ? Si Jésus l'a dit, c'est que c'est vrai. Donc quand je suis découragé parce qu'il y a telle ou telle chose qui ne va pas, est-ce que 2 minutes, je pourrais m'arrêter ? Et regardez à celui qui pourvoit. Et regardez à celui qui peut me donner du travail. Regardez à celui qui peut fournir. Je sais que parmi nous, il y a des chefs d'entreprise. Il y en a qui peuvent être aussi sous le couperet de ne pas avoir de contrat en ce moment. Et le Seigneur peut te dire, mais le Seigneur, il va te donner. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est patron, chef d'entreprise. Il a vécu tellement de fois. Et je sais que là encore, ce matin, parmi nous, certains pourraient en témoigner que Dieu donne du travail. Il pourvoit. Qu'est-ce qui se passe le jour où je commence à m'appuyer sur les paroles que Dieu me dit ? Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment ? On comprend que dans le fait de prendre courage, dans le fait de se fortifier, il y a une notion très importante de foi. Je ne sais pas si on avait imaginé qu'avec le courage, la foi s'articulait. Eh bien, vous savez, la foi s'articule avec beaucoup de choses. Et le courage, ça en fait partie. Le fait de se fortifier, ça en fait partie. Le problème, c'est d'avoir la foi, c'est de nous appuyer sur ce que Dieu nous dit. Sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable et il nous sera impossible de rester encourageant. Il nous faut avoir la foi, il nous faut cette foi qui va nous aider à rester dans les paroles que Dieu nous donne. Quand on est dans le repos, vous savez, quand on a fait des expériences, quand on a décidé de s'appuyer, on pourrait le lire ça, dans le premier livre de Samuel. J'ai parlé de Anne tout à l'heure. Regardez ce qui est écrit. C'est au verset 18 du premier chapitre de 1 Samuel. Anne, elle va aller devant Dieu. Elle va pleurer devant Dieu. Toutes les larmes de son corps, on pourrait dire. Elle va être comme un cœur ouvert avec Dieu. Elle sait que Dieu a accès à son cœur. Mais ça fait du bien quand même de dire à Dieu ce qui ne va pas. Et Anne l'a fait dans son cœur. Et pourtant, au verset 18, qu'est-ce qu'on voit ? Elle dit, elle va recevoir une parole du pasteur qui va lui dire ceci, verset 17. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Elle va s'appuyer sur cette parole. Elle va la prendre quand bien même le pasteur est des fois à côté de la plaque. Elle va considérer cette parole comme une parole de Dieu. Elle dit « Que ta servante obtienne ta faveur. » Et cette femme poursuivit sa route, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Quelqu'un qui commence, qui fait une vraie expérience avec Dieu, quand bien même il traverse des moments difficiles, quand il s'appuie sur Dieu, ça se voit. Ça se voit. Anne, c'est écrit, son visage ne fut plus le même. Je ne sais pas si on réalise tout ce que nos visages peuvent exprimer. Il y a des personnes, sans même leur parler, on sait qu'elles sont découragées. Et il y a des personnes, sans même leur parler, on sait aussi qu'elles ne sont pas découragées. Ça se lit sur le visage. Et celui qui s'appuie sur les paroles de Dieu, celui qui les reçoit avec foi, eh bien, il va prendre courage. Son visage va changer. Et même son attitude va changer. Parce que derrière, elle a été fortifiée. Elle va pouvoir reprendre la marche. C'est le visage apaisé, celui qui nous parle tout à nouveau du repos de la foi. On en revient encore là. C'est la même chose. Je me suis laissé fortifier par une parole de Dieu. J'ai reçu cette parole. Je m'appuie dessus. Eh bien, je suis dans la paix. Et dans la paix, je reprends courage. Dans la paix, je reprends des forces. Quand on dort, on reprend des forces, oui ou non? Donc quand on est dans la paix, on reprend des forces spirituelles. C'est la même chose. Et je terminerai peut-être là-dessus. Vous savez, du courage, on peut même passer à l'assurance. Parce qu'au fil des expériences que nous faisons, eh bien, notre foi, justement, c'est ça, la notion de se fortifier, c'est que plus je me fortifie, plus je me fortifie. Plus je me fortifie, plus je suis fort. Et c'est un cercle vertueux. Ce qui fait qu'une personne qui a fait des expériences avec Dieu, qui a appris à s'appuyer par la foi en Dieu, derrière, il peut arriver des choses même difficiles, mais cette personne s'est enracinée dans la parole de Dieu, dans les paroles que Dieu lui a données. Et les expériences qu'elle a faites sont aussi là comme des preuves tangibles que Dieu prend soin, que Dieu est là malgré tout. Et même si pour l'instant, rien ne semble nous faire croire que Dieu est là, eh bien, le vrai chrétien, celui qui a appris à s'appuyer, eh bien, il est devenu plus fort. Il est passé du courage, où il y a une notion de peur, à une notion d'assurance, où la peur disparaît. Et on sait, c'est comme ça, il y a la paix. Et on sait que Dieu est là, qu'il va intervenir, qu'il va pourvoir, qu'il va agir, à un moment qu'il choisira, et on est prêt à l'accepter. Même si, pour le moment présent, eh bien, on n'en voit pas les couleurs. C'est l'assurance. L'apôtre Paul, il demande aux Éphésiens justement cette chose. Priez pour que je parle avec assurance. On veut de l'assurance. Et la foi, c'est quoi d'ailleurs? Une ferme assurance. Donc le courage est lié à la foi et qui est lié aussi à une ferme assurance. Quand je commence à être assuré de quelque chose, c'est que vraiment, j'ai confiance, je me sens en sécurité, je sens qu'il y a comme une garantie, qui a des preuves, je suis ferme dans ce que j'ai reçu et je n'en bougerai pas. Qu'il vente, qu'il pleuve, c'est pareil. Je fais confiance à Dieu. Attention néanmoins, à ne pas aller au-delà. Vous savez, après l'assurance, ça peut encore aller. Ça s'appelle l'audace. Ça peut s'appeler aussi la témérité. L'audace, c'est une hardiesse excessive. On a mesuré un peu les choses. On voit en gros les difficultés, tout ça. Et on va être audacieux parce qu'on est dans une assurance excessive. Et on va entreprendre des choses qui pourront marcher, mais qui ne pourront pas marcher. Il y a pire que ça, c'est la témérité. Parce que la témérité, c'est une assurance telle qu'on ne veut même pas considérer les dangers. On ferme les yeux sur les dangers, on ferme les yeux sur les choses et on va de l'avant. Et souvent, c'est le casse-pipe, comme on dit. Attention, le Seigneur veut nous appeler quand même. Il veut que nous ayons du courage. Il ne veut pas voir des enfants découragés. Il veut qu'on puisse même avoir de l'assurance. Ça, c'est biblique. Mais au-delà, il y a quand même des garde-fous qui sont là dans la parole. Qu'est-ce que dit Jésus ? Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà une bonne parole qui va nous aider à ne pas aller trop loin. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens aussi, 1 Corinthiens 10, 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Le Seigneur veut que je prenne courage, il veut que je garde courage, de la même manière que Jésus, lui, n'a jamais été découragé. Mais néanmoins, nous sommes ce que nous sommes, par la grâce de Dieu, et il nous faut faire attention à bien mesurer qui nous sommes, qui est Dieu. C'est ce qui nous permettra de nous appuyer toujours sur lui. À partir du moment où on a trop d'assurance, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'appuyer sur nous-mêmes. Et nous, nous sommes faibles. Nous, nous allons faillir. Si je considère sans cesse que je suis faible et que je peux m'appuyer sur la force de Dieu, là, je tiendrai bon. Si je crois trop en moi, je vais tomber, c'est sûr. Comme l'écrit Isaïe, les jeunes hommes chancellent. Et celui qui prend appui sur ses propres forces, il ne pourra que chanceler. Est-ce qu'on demande au Seigneur sa grâce ? Seigneur, donne-nous du courage. Aide-nous, Seigneur, à nous fortifier. C'est là qu'est la clé. Seigneur, je veux apprendre à t'écouter. Je veux, par la foi, m'appuyer sur ce que tu me dis. Seigneur, si un jour ça ne va pas, eh bien c'est à toi seul que je veux regarder, parce que je sais que c'est à ce moment-là que je pourrais reprendre des forces. Seigneur, ce repos de la foi, j'en ai besoin. Il me faut m'appuyer sur toi. Seigneur, aide-moi. Viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité. On le demande au Seigneur tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce qu'une fois de plus, ta parole nous montre que nous pouvons garder courage. Quand bien même les situations que nous vivons peuvent être difficiles, peuvent être compliquées, peuvent être pénibles, qui nous demandent de la patience. Oui, Seigneur, nous te demandons ta grâce. Seigneur, c'est à toi que nous voulons regarder. Et comme nous l'avons chanté, nous voulons célébrer tes hauts faits, parce que c'est toi qui nous as bénis, c'est toi qui nous as fait grâce. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir nos yeux fixés sur toi, pour que nous puissions reprendre les forces nécessaires dans ces situations difficiles. Tu nous vois tous, tu connais nos circonstances de vie, tu connais toutes choses, Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous te demandons ta grâce, ton aide. C'est seulement avec ton aide que nous pourrons marcher jour après jour en comptant sur ta grâce. Oui, Seigneur, ta grâce seule nous permet de marcher. Seigneur, loin de nous l'idée de vouloir marcher par nos propres forces. Seigneur, aide-nous à toujours compter sur toi, à nous appuyer sur toi pour que nous puissions marcher sans nous décourager. Et tends ta main, fais-nous grâce. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Aide-nous à nous appuyer sur ces paroles que tu nous as données ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen.